VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Chez Robin Dorcy, les Timothée Donangmaï, bonsoir à tous, bienvenue à cette édition du 4 février 2016. À la une ce soir.
Au Niger, les partisans de l'opposant Ama Amadou accusés de violence contre les supporters du parti au pouvoir. Et au Tchad, une manifestation de diplômés sans emploi réprimée par la police.
L'armée républicaine est formée pour tuer, donc qu'ils nous tuent tous.
Terminé. On a écrit paix pacifique, les gens tirent sur nous.
Fausse commune au Burundi, le ministre des Affaires étrangères rejette les accusations d'Amnesty International. Et puis, retour ce soir sur la situation d'esclavage sans le nom que subissent de nombreuses Africaines dans les pays du Moyen-Orient.
C'était trop pénible pour moi. Ma main correctienne, elle a fini par me brûler avec de l'eau chaude. Là, je me suis échappée.
En sport, c'est l'euphorie au Mali après la qualification des Aigles pour la finale du CHAN 2016 où ils affronteront la RDC.
Vraiment, on se réunit, nous sommes contents et nous sommes satisfaits. Et nous venons de battre la Côte d'Ivoire, presque 50 ans après l'indépendance.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais tout d'abord le journal.
Au Niger, le ministre de l'Intérieur a accusé les partisans de Ama Amadou de vandalisme et d'agression. L'opposant et candidat à la présidentielle a trouvé le moyen de battre campagne, même s'il est toujours en prison, Idriss Fall.
Hassoumi Massaoudou a déclaré que depuis l'ouverture de la campagne samedi, il y a eu des actes d'agression, de violence commises par les militants du MODEN, le parti de Ama Amadou. En tant que secrétaire général du PNDS, le parti du président Issoufou, M. Massaoudou a ajouté qu'au moins 50 véhicules appartenant à leurs militants ont été cassés. Sur certaines artères de Niamey, des portraits du candidat Issoufou sont décollés ou ont été déchirés. Il y a 15 candidats à la présidentielle du 21 février, mais l'ombre de Ama Amadou, pourtant écrouée, plane sur la campagne. Mardi, des milliers de ses partisans ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène alors qu'ils tenaient un meeting devant le siège de leur parti à Niamey. C'était peu avant le passage du cortège du président Issoufou qui revenait d'un rassemblement à Filengué. Filengué abrite aussi la prison où est écroué le candidat Ama Amadou pour une affaire de trafic présumé de bébés.
Le couvre-feu a été levé jeudi en Tunisie après l'essoufflement de la plus importante contestation sociale depuis la révolution de 2011. Mais les revendications contre le chômage et la misère demeurent entières dans ce pays en plein marasme économique.
Au Mali, situation tendue à Kidal, bastion de l'ex-rébellion dans le nord, où des éléments armés de la plateforme, la coalition des groupes armés pro-Bamako, sont entrés sans violence cette semaine. Les ex-rebelles de la CMA, la coordination des mouvements de l'Azawad, qui contrôle la ville, proteste avec énergie, d'où la tension en cours. Nous en reparlerons en seconde partie d'émission.
Au Tchad, un élève âgé de 8 ans environ a été tué cet après-midi dans une explosion de grenade au domicile familial en N'Djamena, dans la commune du 5e arrondissement. L'explosion a fait également 2 blessés dans la même concession, dont une fille. Le procureur de la République a ordonné l'ouverture d'une enquête pour déterminer la provenance de l'explosif.
Crise burundaise, réaction très vive de Bujumbura aux déclarations du ministre belge des Affaires étrangères Didier Reynders, selon lesquelles la Belgique est prête à participer à une force d'interposition au Burundi si l'ONU vote en faveur d'un tel plan. Son homologue burundais Alain Niamitwe a rétorqué aujourd'hui que le Burundi n'a pas de problème avec la Belgique et ne souhaiterait pas en avoir. Plus de 50 ans après l'indépendance, nous ne serons jamais d'accord pour que la Belgique s'immisce dans les affaires du Burundi, a-t-il ajouté.
RDC, le procès Germain Katanga a débuté hier à Kinshasa. L'ancien chef rebelle a comparu avec 6 de ses co-prévenus devant la haute cour militaire. Les avocats de la défense récusent ce nouveau procès au motif que la justice internationale a tranché dans cette affaire.
Au Congo-Brazzaville, les électeurs sont appelés aux urnes le 20 mars pour le premier tour du scrutin présidentiel. L'opposition qui avait boycotté le référendum pour le changement de la Constitution et vivement contesté la modification du calendrier électoral a finalement décidé de participer aux élections. Pourquoi un tel revirement?
Nous allons passer à l'élection présidentielle. Nous allons redoubler de vigilance. Nous allons demander aux nôtres d'être présents dans les bureaux de vote et si ce n'est pas pour éliminer totalement la fraude, Nous voulons l'atténuer autant que possible. Nous avons fait de grandes mobilisations pendant la campagne référendaire à Pointe-Noire, la deuxième ville du Congo, à Dolisie, la troisième ville du Congo, ici à Brazzaville, la capitale. Nous avons fait de grandes mobilisations, de grandes meetings. Ensuite, nous avons réussi à boycotter le référendum où à peine 10% sont allés voter. Si nous pouvons capitaliser justement ce rejet actuel, faute d'avoir réussi à arrêter le processus de Monsieur Sassou, nous pouvons, avec le peuple congolais, nous pensons l'obtenir par la voie des urnes, plutôt que de prendre la rue, comme nous l'avons fait.
Pascal Tsatsi Mabiala, secrétaire général de l'UPADS à Brazzaville.
Nouvelles accusations d'abus sexuels contre les casques bleus déployés en République centrafricaine. La mission de l'ONU en Centrafrique a fait état ce jeudi de 7 nouveaux cas présumés, dont 5 concernent des mineurs, à Bambari, dans le centre du pays. La MINUSCA dit avoir dépêché à Bambari un expert du Bureau des services de contrôle interne des Nations Unies en rapport avec cette situation.
Le Parlement du Soudan du Sud a voté une loi hier limitant le nombre de travailleurs humanitaires étrangers pouvant opérer dans le pays. Le texte doit encore être signé par le président Salva Kiir pour avoir force de loi. Dans un pays où plusieurs millions de personnes sont affectées par la guerre, cette mesure inquiète. Maëlys Hegel nous en dit plus.
La nouvelle loi sur les organisations non gouvernementales prévoit que seuls 20% des travailleurs humanitaires du Soudan du Sud peuvent être étrangers. En cas de fausse déclaration sur l'origine des travailleurs, une clause prévoit jusqu'à 3 ans de prison et une amende. Actuellement, quelques 140 ONG internationales sont présentes au Soudan du Sud, dont Médecins sans frontières ou encore Save the Children. Elles sont souvent dans de vastes régions du pays les seules à fournir une assistance médicale aux populations. Devenu indépendant en juillet 2011, le Soudan du Sud vit une guerre civile depuis plus de 2 ans. En dépit d'un accord de paix signé le 26 août dernier entre le président Salva Kiir et son ancien vice-président Riek Machar, le conflit a fait plusieurs milliers de victimes et quelques 2,3 millions de déplacés. 3,9 millions de Sud-Soudanais ont besoin d'une aide alimentaire d'urgence.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Un tribunal de Jérusalem a condamné jeudi un jeune Israélien à perpétuité et un autre à 21 ans de prison. C'est pour leur participation au meurtre d'un adolescent palestinien brûlé vif en 2014. John Lindon.
Les deux jeunes gens ont été condamnés par la justice israélienne pour l'enlèvement et l'assassinat de Mohamed Abdou Kader le 2 juillet 2014 à Jérusalem-Est. Les noms des deux accusés, issus de familles ultra-orthodoxes juives, ont été gardés secrets parce qu'ils étaient mineurs au moment des faits. La mère de Mohamed Abdou Kader a éclaté en sanglots à l'annonce du verdict dans le petit prétoire plein à craquer parce que l'un des accusés n'avait pas reçu la peine maximale. Elle a dit refuser les 7 600 $ que chacun des deux accusés a été condamné à verser à la famille. L'assassinat avait contribué à l'escalade des violences menant à la guerre de Gaza en juillet-août 2014. Il a profondément marqué l'opinion palestinienne. La perpétuité est la peine la plus lourde que le tribunal pouvait infliger. Les seuls crimes passibles de la peine de mort en Israël sont les crimes de guerre et de trahison depuis l'abolition de la peine capitale pour meurtre en 1954.
La justice israélienne a suspendu aujourd'hui la détention sans inculpation ni procès d'un journaliste palestinien en grève de la faim depuis 72 jours, dont l'état de santé a alarmé des organisations internationales. Ses proches peuvent à présent lui rendre visite, mais il n'a pas le droit de quitter l'hôpital sans autorisation. L'AFP, qui cite l'avocat de Mohamed Al-Kik, Jawad Boulous, rappelle qu'il a jusqu'à présent répété qu'il ne recommencerait pas à manger tant qu'il ne recouvrerait pas totalement sa liberté.
Réaction après l'arrêt des discussions de paix de Genève sur la Syrie. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a dit espérer que la pause dans les négociations ne serait que temporaire. Monsieur Zarif a appelé les acteurs extérieurs au processus à ne pas chercher à en dicter les conditions. Après 6 jours de discussions avec le régime syrien d'une part et l'opposition de l'autre, l'émissaire de l'ONU, Staffan de Mistura, a annoncé hier à Genève une pause dans les négociations censées enclencher une solution politique au conflit. Le diplomate onusien s'est refusé à parler d'échec et a déclaré avoir fixé la date du 25 février pour une reprise des discussions.
Toujours concernant la Syrie, la conférence des donateurs a réuni plus de 10 milliards de dollars. C'est du moins ce qu'a indiqué le Premier ministre britannique David Cameron. En fait, la réunion de Londres avait prévu de lever 9 milliards de dollars en faveur des 18 millions de Syriens victimes de la guerre, avec l'ambition d'endiguer la crise des réfugiés qui, du Moyen-Orient à l'Europe, pèse sur les pays d'accueil.
Le virus Zika en Espagne, une patiente a été diagnostiquée en Catalogne, dans le nord-est, portant à 7 le nombre de cas répertoriés jusqu'à présent. La nouvelle a été confirmée dans un communiqué du ministère espagnol de la Santé, repris par l'AFP.
Course à la Maison-Blanche, l'effectif se réduit dans le camp républicain. Après l'Iowa, déjà 3 prétendants ont jeté l'éponge. Le dernier en date, c'est l'ancien sénateur de Pennsylvanie, Rick Santorum. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique ce soir, c'est avec Arzuma Compaoré. Des difficultés techniques nous empêchent d'entendre Arzuma dans cette minute écho. Et donc, nous allons passer tout de suite à notre page sport, l'actualité sportive ce soir, Timothée Donangwai, qui est dominé par la victoire des Aigles du Mali en demi-finale du CHAN 2016, le championnat d'Afrique des Nations.
Et oui, les Maliens sont aux anges après la victoire de leurs aigles sur les éléphants de Côte d'Ivoire. Écoutons ses réactions dans les rues de Bamako.
Je m'appelle Sewou Ndiaye, je suis un supporter, fervent supporter des aigles du Mali. Et vraiment, on se réunit, nous sommes contents. Et nous sommes satisfaits. Et nous venons de battre la Côte d'Ivoire. Presque 50 ans après l'indépendance.
Dans un... Pour la première fois, moi quand même, j'ai vu une équipe de Mali qui bat la Coupe de Côte d'Ivoire dans une compétition comme ça. D'abord, chacun
des Maliens aujourd'hui, tout le monde est content.
Pourquoi ? Parce qu'on a gagné. On a gagné contre qui ? Contre Côte d'Ivoire.
Fierté aussi pour l'encadrement technique que nous allons vraiment remercier, féliciter, ainsi que l'ensemble des joueurs. Tout le peuple malien est fier aujourd'hui. Et notre objectif principal, c'était vraiment d'arriver à battre la Côte d'Ivoire une fois quand même. On n'avait jamais pu parvenir à faire ça. Et maintenant qu'on est en finale, et nous prions le bon Dieu aussi pour que vraiment, après la performance des cadets et des juniors dans les compétitions internationales, que cette équipe aussi puisse vraiment rehausser encore une fois de plus le niveau du football malien.
Des réactions de fans maliens recueillies à Bamako par Kassim Traoré, Chérubin Dorsil.
Alors, j'allais dire, il prie le bon Dieu, mais la RDC peut aussi prier le même Dieu.
Et tout à fait. Et ce que j'ai aussi noté, c'est que un des fans a vraiment une bonne mémoire, puisqu'il se souvient que depuis l'indépendance, c'est la première victoire de son pays sur la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas dans quelle mesure cela est exact, mais on lui fait confiance.
On a une autre réaction, Tim?
Et nous avons maintenant la réaction du côté des éléphants de Côte d'Ivoire. Et c'est avec l'ancien champion d'Afrique, 92, avec les éléphants, l'ivoirien Lucien Kassi Kouadio, qui estime que les éléphants ont manqué de fraîcheur.
On a manqué de fraîcheur, ce qui a fait qu'on n'a pas pu aller au bout de certaines actions. Contre le Cameroun, nous avons fourni beaucoup d'efforts. Nous sommes allés jusqu'aux prolongations. La question que je me pose, est-ce que nous avons récupéré, après le Cameroun, est-ce que nous avons récupéré le Mali?
Voilà, c'était donc l'ivoirien Lucien Kassi Kouadio qui exprimait sa déception suite à l'échec des éléphants de Côte d'Ivoire face aux aigles du Mali.
Donc rendez-vous dimanche pour cette grande finale du CHAN 2016. RDC Mali. Football et géopolitique, la FIFA a retiré des réseaux sociaux mercredi une carte de la Russie d'où était absente Timothée Donangmaï, la Crimée.
Et oui, et donc en octobre 2014, la FIFA s'était excusée pour la diffusion d'une carte incluant la Crimée dans la Russie lors de la présentation de l'emblème officiel du Mondial 2018. L'utilisation de cette carte, Gabi, alors que la communauté internationale ne reconnaît pas le rattachement de la Crimée à la Russie, la Crimée qui est une région d'Ukraine, avait provoqué de nombreuses réactions, notamment à Kiev et Moscou.
Résultat dans la NBA, Washington a perdu, on n'a pas besoin de trop en parler, on n'est pas trop content. De toute façon, perdre devant Golden State, bon, ça c'est pas mal. New Orleans, San Antonio Spurs, 97-110, là mon équipe a gagné. Et Utah a battu Denver, 85-81.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Timothée Dolangmaï et Chérubin Gabi Dorsil en votre compagnie dans cette édition du Monde aujourd'hui. Place au dossier du jour. Première escale, le Tchad.
La police a dispersé ce matin à N'Djamena une manifestation des diplômés sans emploi d'écoles et d'instituts publics qui protestaient contre le gel de l'intégration à la fonction publique. Ce qui devait être une marche pacifique a tourné à l'émeute. On fait le point avec André Kodmajingar.
C'est le ras-le-bol ce jeudi matin des lauréats des écoles nationales, des instituteurs bilingues, des agents sanitaires et sociaux, des instituts supérieurs des sciences de l'éducation, des écoles supérieures des sciences appliquées de Bangor, des écoles nationales supérieures des travaux publics et quelques universitaires en instance d'intégration depuis plusieurs années. Ils ont démontré leur colère contre la suspension de l'intégration à la fonction publique. Cette manifestation intervient deux jours après celle programmé par le collectif des associations et mouvements de jeunes du Tchad, qui a été avorté sous pression de certains membres du gouvernement sur les membres du bureau exécutif du dit collectif. Même le recrutement par voie de contrat annoncé par le gouvernement ne rassure pas le secrétaire général de la dite coalition, Damas Gérard.
Lorsque nous avons rencontré le ministre de la fonction publique en personne, il nous a dit depuis que la loi a été votée depuis le mois de janvier, c'est le 25 janvier qu'ils ont reçu une autorisation pour l'ouverture encore d'une commission et que rien n'est su que l'intégration va sortir et qu'une partie serait intégrée en février et l'autre en juin ou autre. Et on a trouvé que ce n'est qu'un leurre, une manière de vraiment berner la jeunesse et de l'enterrer vivant. Et nous sommes restés pacifiquement pour pouvoir rencontrer le ministre et nous dire exactement à quand réellement l'intégration de cette jeunesse-là. À notre grande surprise, la police était venue, se sont mis directement à tirer les lacrymogènes et les balles réelles sur nous.
Bien qu'ils soient accueillis ce jeudi matin par la police avec les gaz lacrymogènes qui ont fait une vingtaine de victimes, dont un dans un état grave, les manifestants durcissent leur position.
Nous demandons aux parents d'élèves, à toutes les institutions, d'observer strictement la période allant du cadre jusqu'à satisfaction totale. On demande à tous les parents de garder leurs enfants à la maison.
Mais celui qui laisse son enfant venir, cela veut dire qu'il n'aime pas son enfant.
À partir de maintenant, comme la police est venue répondre par la violence, notre manifestation va continuer. Que ces éléments recrutés par remplacement numérique là, de venir nous tuer, nous, on va aller jusqu'au bout.
Selon certaines sources, la police aurait tiré à balles réelles sur les manifestants, faisant 3 blessés dans les rangs des élèves, dont un enseignant qui n'est pas concerné par ce mouvement d'humeur. Vu la détermination de ces jeunes diplômés sans emploi, la semaine prochaine s'annonce difficile. André Kodmajingar N'Djamena, La Voix de l'Amérique.
Bonjour les amis, c'est Roger Montou
et Anastasie Tudiache.
Le chanteur Akon a été l'invité spécial de Vous et Nous.
Eh oui, Roger, son futur album, la société qu'il dirige et qui fournit de l'électricité en Afrique, son journal intime, il nous a tout dit.
Ne manquez pas son interview jeudi 4 février sur VOA Afrique à la télévision, mais aussi à la radio. À bientôt.
Cap maintenant sur le Burundi, où le ministre des Relations extérieures, Alain Niamitwe, est revenu lors de sa conférence de presse aujourd'hui sur les accusations d'Amnesty International faisant état de charniers dans certaines zones du pays. Nous en avons parlé avec notre correspondant à Bujumbura, Christophe Kurunziza.
En fait, le gouvernement du Burundi, par le biais du ministre des Relations extérieures, il est clair et catégorique, il dit qu'il n'y a pas de preuves que ces images ont été prises au Burundi et qu'il y a des exemples un peu partout dans le monde où, surtout aujourd'hui, où il y a une certaine libre circulation de l'information, que ces images ne sont pas directement, concernent le Burundi directement. Donc, il dit, le ministre des Relations extérieures, qu'il faut attendre que les enquêtes soient menées pour dire que, véritablement, ces images où il y a des gens qui sont tués proviennent réellement du Burundi. Donc, en fait, d'une autre façon, c'est pour dire non, il n'y a pas de fosse commune au Burundi.
Les fosses communes, on en a normalement dans le pays et c'est une situation que l'on trouve un peu partout, dans des endroits où il y a eu des conflits.
Il y a certaines fosses communes qui datent de longtemps. Donc, en certains moments, dans les années 93, au moment où il y a eu la guerre civile au Burundi, il y a eu des fosses communes qui ont été inventoriées à ce moment-là. Mais aujourd'hui, il y a, après l'attaque du 11 décembre dernier, il y a eu des quartiers qui ont été, disons, directement touchés par la violence, notamment les quartiers qu'on qualifie de contestataires, comme Nyakaviga, Moussaga et autres. Donc, il y aurait, d'après certains témoignages de la population qui réside dans ces quartiers, des policiers et des agents militaires qui auraient transporté des corps vers des fosses communes. C'est pour cela que c'est à prendre avec pincette parce qu'il n'y a pas, normalement, il n'y a pas quelqu'un qui a dit, sauf les témoignages de la population, qu'il y a des fosses communes au Burundi. Mais Amnesty International a donné des images qui montrent effectivement qu'il y a certains endroits au nord de nord-ouest du Burundi où il y a eu des fosses communes. Mais dans le passé, c'est vrai, il y a eu des fosses communes au Burundi.
Quelle est la position de la classe politique en général sur cette affaire?
En fait, elle est divisée. Il y a certains, notamment les gens de l'opposition, qui disent effectivement que d'après les témoignages de la population qu'ils ont pu interviewer, il y a des fosses communes après l'attaque meurtrière de certaines cités contestataires le 11 décembre dernier. Mais pour le gouvernement de Bujumbura, ils disent non, c'était ces gens armés qui ont tué des gens le 11 décembre et que ce n'est pas le gouvernement qui est imputable à ces atrocités. Donc il y a d'une part l'opposition qui pointe du doigt le gouvernement, mais le gouvernement qui réfute ces fosses communes.
Pour VO Afrique à Bujumbura, Christophe Koronziza.
Et au Mali, les tractations se poursuivent à Kidal entre les milices pro-gouvernementales et les ex-rebelles de la coalition des mouvements de l'Azawad, la CMA, que revendique chaque parti. Idriss Fall a joint à Kidal Ambéry Agrissa, leader de la CMA.
Bon, le problème, c'est que la branche armée de la plateforme, ou d'une partie de la plateforme, est entrée à Kidal alors que ce n'était pas convenu avec la CMA qui a le contrôle de la ville. Alors, la présence de l'aide militaire de la plateforme à Kidal, alors que ce n'était pas convenu, et ça crée une certaine tension. Ce n'est pas une bonne pédagogie pour l'instant. À tout moment, il peut y avoir un dérapage parce qu'il y a des têtes brûlées de chaque côté. Si l'une d'elles commet un impair, ça peut amener beaucoup de mauvaises conséquences. C'est tout. Hein.
Nous, on avait compris qu'ils sont entrés sans violence avec l'accord de la CMA.
Non, il n'y avait pas d'accord avec la CMA. Il y avait un accord sur d'autres points, mais pas sur la présence militaire de cette branche de la plateforme à Kidal dans l'immédiat. Ça devait être négocié dans une commission ultérieurement.
Mais pourtant, vous aviez fait un accord déjà à Nefis, non?
On a fait un accord à Alger. Mais ça ne veut pas dire que le Mali va retourner dans la Zawad 24 heures après. À Nefis, on a fait un accord et les choses doivent se faire avec une certaine pédagogie progressivement. Dans l'accord de Nefis, il était dit que les déplacements des troupes, chaque parti doit prévenir l'autre pour nous dire qu'est-ce que ce déplacement des troupes vient faire dans sa zone d'influence.
Qu'est-ce qui est en train de négocier avec les gens de la plateforme alors à Kidal? On négocie leur départ ou bien on négocie pour que ceux qui sont armés puissent quitter la ville?
Je ne sais pas. La communauté internationale doit normalement trouver la solution parce que de toute façon, la plateforme est un peu pressée. De toute façon, on doit se retrouver un jour ou l'autre ensemble, comme c'est le cas avec l'armée malienne, selon les termes de l'accord. Il y a une manière de faire chaque chose.
Mais normalement, il est prévu que l'armée malienne et la plateforme et la CMA occupent les mêmes endroits partout.
Oui, mais ça, c'est dans le cadre de l'application de l'accord. La solution possible, ça doit être une solution négociée. Je pense qu'il n'est plus question de revenir au règlement des questions par par les armes. À mon avis, ce n'est plus de mise. Il faut trouver par la concertation une issue de sortie acceptable pour tous. Normalement, la sagesse doit prévaloir.
Ambéric Agrissa, leader de la coalition des mouvements de la Zawad, joint à Kidal.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
De nombreuses Africaines à la recherche du bien-être hors du continent, notamment au Moyen-Orient, se retrouvent très souvent dans des situations difficiles. John Lyndon s'est entretenu avec l'une d'elles, que nous appellerons Solange, et qui vit aujourd'hui au Koweït.
Nous payons des 1 million, 2 millions pour arriver ici au Koweït. Et la procédure prend 2 semaines avant notre arrivée ici au Koweït. Nous travaillons comme femme de ménage dans les différentes maisons des Arabes.
Alors, quand vous travaillez pour une famille, est-ce que vous avez un contrat ou pas?
Oui, on a un contrat de travail qui est signé de 2 ans, et 2 ans par nos parents arabes.
Et qu'est-ce que vous devez faire lorsque vous n'avez plus envie de travailler ou de partir, soit de la famille, ou travailler ailleurs, ou même rentrer au pays?
La seule condition pour nous est de s'échapper de la famille, de sortir au cadre. Et en retour, appeler la famille d'accueil et les rembourser leurs frais d'argent.
Donc, si vous ne remboursez pas l'argent, vous ne pouvez pas partir?
Non, on ne peut pas partir. Soit ils nous envoient à la police et la police nous rapatrie dans notre pays.
Il s'est dit aussi qu'ils confisquent vos documents, les passeports et toute autre pièce importante?
Oui, oui. Quand on arrive au pays, les personnels de l'agence viennent nous recevoir à l'aéroport. Et quand ils nous reçoivent à l'aéroport, ils nous conduisent à l'agence. Et quand nos parents coréens viennent nous acheter parce qu'ils dépendent de l'argent pour nous acheter et c'est là où ils confisquent nos passeports.
Vous particulièrement, vous avez travaillé dans une première famille où on vous maltraitait. Qu'est-ce qu'on vous faisait concrètement?
Ça a été vraiment très alarmant. Mon père, il a voulu abuser de moi. Je ne travaillais pas de sommeil, je ne dormais presque pas. Et alors, j'ai vu qu'il fallait s'enfuir. Je me suis enfui, aller à l'agence. Et rentrer dans la rue du Koweït, 2 jours après, je me suis rendue à l'agence. Et là, on m'a encore donné à une deuxième famille d'accueil. La deuxième famille d'accueil avait 11 enfants. Et c'était trop pénible pour moi. Ma mère koweïtienne, elle a fini par me brûler avec de l'eau chaude. Et là, je me suis échappée.
Est-ce que les autorités du Koweït ou alors les ambassades africaines sont au courant de votre situation et de celle de beaucoup d'autres filles comme vous?
Ici au Koweït, précisément, il y a l'ambassade du Togo. Je dirais bon nombre de filles se réfugient là-bas, mais hélas, vraiment, la situation est très alarmante. La seule solution est de nous amener au poste de police et de nous rapatrier, c'est tout.
Alors, quel est le message que vous pouvez lancer à ceux qui vous écoutent en ce moment?
Aux hommes de bonne volonté, vraiment, qu'ils aient pitié des filles, aux femmes de l'Afrique, parce que là où je parle, je tiens à bout de larmes. Parce que là, je suis sans papier dehors au Koweït. Présentement, je travaille dans un restaurant. Quand la police arrive, on s'échappe. Vraiment, qu'ils aient pitié. Dans ces différents pays du Moyen-Orient, au peu de l'abus sexuellement et de la maltraitance, c'est de l'esclavage de l'antiquité, vraiment.
Témoignage d'une Africaine vivant au Koweït.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, African Music, les anciens et nouveaux morceaux africains. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, La Voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Nous arrivons à la fin de cette édition mise en onde par Lionel Gaïma avec l'assistance de Nashwan Kale à la console. Présentation Timothée Donangmaï et Chérubin Dorsil.
Ainsi va le monde aujourd'hui. On maintient la conversation sur Facebook. Partagez vos impressions, vos photos et vidéos. Posez des questions. Et n'oubliez pas de visiter notre site internet voafrique.com pour plus d'informations 24 sur 24.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.